Cela est triste. Et cependant, ce n'est pas de cela que je le plains. Son cœur n'est peut-être pas celui d'un Médicis, mais, hélas, c'est encore moins celui d'un honnête homme.
N'en parlons pas, Catherine. Il est assez cruel pour une mère de ne pouvoir parler de son fils.
Ah, cette Florence, c'est là qu'on l'a perdue. N'ai-je pas vu briller quelquefois dans ses yeux le feu d'une noble ambition ? Sa jeunesse n'a-t-elle pas été l'aurore d'un soleil levant ? Et souvent encore aujourd'hui, il me semble qu'un éclair rapide. Je me dis malgré moi que tout n'est pas mort en lui.
Ah, tout cela est un abîme. Tant de facilité, un si doux amour de la solitude. Ce ne sera jamais un guerrier que mon Renzo, disais-je, en le voyant rentrer de son collège, tout baigné de sueur, avec ses gros livres sous le bras, mais un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres et dans ses yeux noirs. Il lui fallait s'inquiéter de tout, dire sans cesse « Celui-là est pauvre, celui-là est ruiné, comment faire ?» Et cette admiration pour les grands hommes de son Plutarque. « Catherine, Catherine, que de fois je l'aurais baisé au front, en pensant au père de la patrie. »
Ne vous affligez pas.
Je dis que je ne veux pas parler de lui, et j'en parle sans cesse. Il y a de certaines choses, vois-tu, les mères ne s'entassent que dans le silence éternel. Que mon fils eût été un débauché vulgaire, que le sang des Soderini eût été pâle dans cette faible goutte tombée de mes veines, je ne me désespère pas, mais j'ai espéré, j'ai eu raison de le faire. Ah, Catherine, il n'est même plus beau, comme une fumée malfaisante. La souillure de son cœur lui est montée au visage. Le sourire, ce doux épanouissement qui rend la jeunesse semblable aux fleurs, s'est enfui de ses joues couleur de soufre, pour y laisser grommeler une ironie ignoble et le mépris de tout.
Il est encore beau quelquefois, dans sa mélancolie étrange.
Sa naissance ne l'appelait-elle pas au trône ? N'aurait-il pas pu y faire monter un jour, avec lui, la science d'un docteur ? La plus belle jeunesse du monde, et couronnée d'un diadème d'or tous mes songes chéris ? Ne devais-je pas m'attendre à cela ? Ah, Catina, pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait de certains rêves. Cela est trop cruel d'avoir vécu dans un palais de fées, où murmurer les cantiques des anges, de s'y être endormi, bercé par son fils, et de se réveiller dans une masure ensanglantée, pleine de débris d'orgies et de restes humains, dans les bras d'un spectre hideux qui vous tue en vous appelant encore du nom de mère.
Des ombres silencieuses commencent à marcher sur la route. Rentrons, Marie. Tous ces bannis me font peur.
Pauvres gens, ils ne doivent que faire pitié. Ah, ne puis-je voir un seul objet qui ne m'entre une épine dans le cœur ? Ne puis-je plus ouvrir les yeux ? Hélas, ma Catina, ceci est encore l'ouvrage de Lorenzo. Tous ces pauvres bourgeois ont eu confiance en lui. Il n'en est pas un parmi tous ces pères de famille chassés de leur patrie que mon fils n'ait pas trahi. Leurs lettres signées de leur nom sont montrées au duc. C'est ainsi qu'il fait tourner un infâme usage jusqu'à la glorieuse mémoire de ses aïeux. Les républicains s'adressent à lui comme à l'antique rejeton de leur protecteur. Sa maison leur est ouverte, les Strozzi eux-mêmes y viennent. Pauvre Philippe, il n'y aura une triste fin pour tes cheveux gris. Ah, ne puis-je voir une fille sans pudeur, un malheureux privé de sa famille sans que tout cela ne me crie ? Tu es la mère de nos malheurs ! Quand serai-je là ?
Ma pauvre mère, vos larmes se gagnent. Elle s'éloigne. Le soleil est couché. Un groupe de bannis se forme au milieu d'un champ.